OK, c'est vendredi. On est le 19 du mois de novembre. Il est 7 heures. Le ciel est variable. Francis Letourneau est en studio. Bonjour.
Bonjour, Gaétan.
0 degré et... Oh. Ouais, c'est ça. Il a tombé une petite pellicule de neige ces dernières minutes. On est arrivé, il n'y avait pas ça. Et là, tout à coup, le jour se lève et on voit cette fine pellicule de neige sur les voitures et sur l'asphalte ce matin.
Ça, je me disais ce matin quand que je m'en venais à la station, mais ouais. Ça semble que le chemin était noir. Il n'était pas blanc.
Ouais, oui. Là, il est blanc. Il n'y en a pas beaucoup, mais il a tombé cette fine pellicule de neige. Elles sont possibles à 30% ces averses de neige aujourd'hui. Évidemment, faut bien rentabiliser le fait qu'on se lève quelque part en fin de nuit, Francis, et oui. On a pu voir ce matin le spectacle de cette pleine lune qui est en éclipse.
Oui, je l'ai vu un peu à travers les branches, mais même, c'était, je m'attendais honnêtement à éclipse, moi, dans ma tête, juste la lune, on la voit à chaque jour, la lune, mais c'était spécial quand même.
Oui, absolument, on voyait le croissant qui recommençait à réapparaître et tout ça. Quand je me rendais au boulot ce matin, c'était nuageux, je me disais, évidemment. Elle avait une particularité, cette éclipse, c'est qu'elle est particulièrement lente. Elle durait des heures. En fait, la dernière fois que ça s'est passé, il y a de cela quoi, 400 quelques années?
Non, j'ai lu 1440, quelque chose du genre.
Okay. Donc
ça fait longtemps.
Bon. Au niveau de la longévité, parce que des éclipses de lune, elles sont quand même, ça dure plusieurs heures et on revivra ça en 2600 quelques alors que nous ne serons plus devant le micro de CHG.
Je penserais pas.
Assurément pas. Vite fait comme ça, avant l'information, juste vous dire que depuis une semaine, au niveau du rendement du baril de pétrole sur les marchés mondiaux, c'est beaucoup de spéculation, nette diminution du baril qui vient de redescendre sous la barre des 80$. On a grimpé jusqu'à 85-86$. Il y avait une pression à la hausse et là, ça y est, sur les marchés mondiaux, tout ça diminue et nous n'avons pas vu encore cette diminution de la pression à la pompe alors que le contraire, ça prend pas de temps qu'on nous l'impose. Donc, on n'a pas vu ça. Je vous dirais que je viens de faire un tour d'horizon rapide du côté de Gatineau. La plupart des stations là-bas affichent maintenant un prix moyen à la pompe qui est sous le 1,40$. OK, on était à 1,43, 1,44, 1,45 du côté de Gatineau. On est sous le 1,40$. Alors, on ose croire que cette pression-là, à la baisse, si petite soit-elle, sera peut-être observée bientôt dans nos secteurs pour que nous puissions en profiter. On débute, Francis, ce matin en rappelant qu'il y aura une nouvelle série de grèves dans certains CPE du coin. C'est 4 journées de grève consécutives. Ça débute lundi.
Les employés des centres de la petite enfance affiliés à la CSN entameront lundi 4 journées de grève consécutives. Les parents d'enfants qui fréquentent les CPE La Bottine de Maniwaki, Vallée-Sourire de Gracefield et de Casabazois dans la région devront se trouver un plan B pour une majeure partie de la semaine prochaine puisque les journées de grève se dérouleront du lundi au jeudi. Ces 4 journées sont les dernières du mandat de grève de 10 jours voté en faveur par les membres du syndicat en septembre dernier. Si aucune entente n'a été conclue avec le gouvernement d'ici là, des discussions auront lieu afin de trouver un autre moyen de pression pour poursuivre les négociations. Voici les explications de la vice-présidente à la négociation et agente de grief pour le syndicat des travailleurs et travailleuses en CPE de la petite enfance de l'Outaouais, Najwa Zitouni.
Les députés vont se réunir et on va prendre une décision par rapport à ça. Mais habituellement, définir ces journées, une fois que tu vas chercher un autre mandat, soit que tu vas partir en grève générale limitée, on ne veut pas arriver là. On veut négocier, on ne veut pas partir en grève. L'objectif premier, c'est négocier.
Même si ces journées de grève peuvent apporter tout un casse-tête aux parents, Mme Zitouni affirme que le syndicat reçoit un bon nombre de messages d'appui de leur part. Najwa Zitouni propose aux parents de contacter le ministère de la Famille afin d'aider à faire avancer les choses. On l'écoute.
Les parents les appuient. Ils sont en train de regarder les courriels des parents et ils nous demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous appuyer. Et tout ce que je demande aux parents, envoyer des courriels, appeler le ministère de la Famille pour qu'ils bougent, pour qu'ils fassent quelque chose, pour qu'on n'arrive pas à faire une assemblée pour qu'on va en grève générale limitée.
Un rappel que les travailleurs et travailleuses en CPE sont sans convention collective depuis maintenant 20 mois. Des négociations entre les syndicats et le gouvernement ont lieu depuis février dernier.
Dossier de passeport vaccinal, c'est bien triste, mais Maniwaki est forcé de fermer temporairement le centre sportif Gino Hodgick.
L'obligation de présenter le passeport vaccinal dans les centres sportifs et les arénas force la ville de Maniwaki à fermer temporairement le centre sportif Gino Hodgick. La ville n'a pas été en mesure de trouver les ressources humaines nécessaires pour assurer la mise en place d'une telle mesure. De plus, la mairesse Francine Fortin indique que le faible nombre d'utilisateurs du centre sportif engendre des pertes financières plus importantes fréquentes que prévu pour Maniwaki. Pour l'instant, le centre sera fermé jusqu'au 28 novembre prochain. D'ici là, la ville entamera de trouver une solution afin de rouvrir l'infrastructure dans les meilleurs délais. Voici les précisions de la mairesse Francine Fortin.
C'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça, mais on va réanalyser la situation, on va essayer de trouver une alternative. Il y a beaucoup de scénarios qu'on a envisagés là, depuis mardi soir, mais on va mettre une pause, puis on va réanalyser.
La mairesse de Maniwaki affirme être en accord avec les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec dans le but de contrôler la pandémie de la COVID-19. Cependant, elle mentionne que chaque nouvelle mesure demande une adaptation et engendre des coûts pour la ville. D'ailleurs, Francine Fortin dit avoir multiplié les démarches auprès du gouvernement pour l'exigence du passeport vaccinal dans les arénas et centres sportifs soit modifiée pour refléter la réalité des plus petites villes.
Il y a des coûts engendrés à ça. À chaque fois qu'il annonce une nouvelle mesure, depuis le début de la pandémie, il y a toujours des effets qui déboulent un après l'autre, puis il faut toujours se repositionner. Puis on n'est pas une grosse équipe, on est une petite ville de centralité, mais qui offre quand même de gros services, puis là, il faut réanalyser ça.
Une des avenues envisagées par la ville serait d'embaucher une firme de sécurité pour appliquer les mesures sanitaires aux centres sportifs, à condition que le gouvernement débourse les frais encourus.
Et en terminant, on s'attaque aux enjeux climatiques à plus petite échelle.
Plus motivée que jamais à agir sur la question climatique, la députée solidaire de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, propose de rapprocher les gens de la lutte au changement climatique. Émilise Lessard-Terrien a assisté début novembre à la conférence internationale sur le climat qui s'est tenue à Glasgow, au Royaume-Uni. Selon elle, il serait pertinent de mettre en place des plans régionaux de transition ainsi que des instances de concertation régionale afin de s'attaquer aux enjeux des changements climatiques à plus petite échelle. Ainsi, les régions seraient en mesure de quantifier leurs émissions de gaz à effet de serre et d'identifier les principaux émetteurs de gaz à effet de serre.
Imaginez si on était capable d'avoir cet inventaire-là à l'échelle de l'Outaouais pour identifier les différents secteurs qui sont les plus générateurs de GES et que là, on dise, OK, collectivement, comment est-ce qu'on procède? Quelles mesures on peut mettre de l'avant? Et que les gens se sentent proches de la lutte et que s'ils posent des gestes, ça va avoir un impact sur l'inventaire de la région.
Québec solidaire propose d'investir 12 millions de dollars sur 5 ans afin de permettre l'embauche de professionnels qui auront le mandat de réaliser l'inventaire des gaz à effet de serre par région et d'identifier les meilleures pistes de solutions à mettre en place. Le parti politique entreprendra des démarches auprès du gouvernement du Québec afin que des instances de concertation voient le jour dans chaque région du Québec.
OK, c'est déjà fait pour le premier bilan de l'information. Monsieur Francis, je sais que vous êtes déjà à œuvrer sur le prochain.
Oui.
On s'en parle quoi dans 10-12?
Environ.
Ça a-tu du bon sens, oui?
Oui.
OK, merci Francis.